Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre Jean-François Roberge plaide pour une liberté académique complète à l'université après l'affaire du mot commençant par N à l'Université d'Ottawa. Par ailleurs, il souligne le geste de la critique libérale Marois Risky, qui est allée prêter main forte comme suppléante dans une école de sa circonscription. Le ministre Roberge nous a même confié que ça lui donnait envie de retourner dans sa classe et il nous explique ce qui lui manque le plus comme ancien enseignant. Mais d'abord, vous savez qui est au bout du fil? Eh oui, notre compteur!
Gigi Ramoroso! Croqueur d'amour, l'œil de velours comme une caresse!
Gigi... Bonjour Jean-François Gibault!
Bonjour Antoine!
Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, dont on s'est beaucoup ennuyé. Il me semble que ça fait longtemps que tu es venu à l'émission. Parlons de créativité maintenant. C2 Montréal, mais qu'est-ce que c'est ça, C2 Montréal, qui aurait reçu 2,2 millions des gouvernements et de la Ville de Montréal pour son édition 2020, qui se tiendra finalement en ligne?
Oui, bien, C2 Montréal, c'est un événement là, qui a une dizaine d'années, là, bientôt, là, pas tout à fait. Et en fait, C2, commençons par le début de l'histoire. Hein. C2, c'est pour commerce et créativité. Ah. Donc, à l'origine, ben oui, c'est ça que ça veut dire. On a tendance à l'oublier parce que justement, je veux t'en parler aujourd'hui parce qu'on se demande si, à un moment donné, l'organisation n'a pas perdu ses racines de vue. Là, t'sais. On a l'impression qu'ils se sentent peut-être plus le bout des pieds à un moment donné. C2 Montréal, ça a été créé au début, justement, parce qu'on le sait, Montréal a une réputation internationale au niveau de la créativité, mais aussi de la capacité qu'ont nos entrepreneurs à en faire, justement, une activité économique. Évidemment, on pense au Cirque du Soleil, on pense à tous les gens qui sont dans l'industrie des jeux vidéo, du tournage cinéma. Bon, Montréal, donc, au niveau de la créativité, une renommée. Et là, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi on n'essaierait pas de faire un événement annuel qui va venir converger toutes les nouvelles tendances, hein, ce qui est cool, ce qui se développe vers Montréal pour que justement asseoir ce statut-là comme un peu de métropole mondiale de la créativité, mais de la créativité qui débouche finalement sur des activités commerciales et rentables. Et c'est un peu ça l'idée au début, donc, de faire un bout de chemin sur des institutions qu'on avait développées dans les dernières années, tout ce qui est technologique, par exemple. Mais on s'est dit, si tous ces gens-là viennent, dans le fond, c'est comme un gros dîner de chambre de commerce, faut que ça dure plus longtemps puis ça coûte plus cher, OK? Donc, c'est des gens de ce milieu-là qui viennent pour échanger en tant que des conférenciers, brainstormer, bon, des choses comme ça. Mais là, à un moment donné, c'est qu'évidemment, que le comme événement, ben, ils ne financent pas entièrement avec leur simple les ventes de billets, par exemple, parce que ça coûtait très, très cher, aller là, là, on parle de quelques milliers de dollars, là, c'était onéreux, mais même à ça, on n'arrivait pas à faire les frais, donc là, il y a des subventions, évidemment, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, et ils ont des commanditaires publics comme la Caisse de dépôt, mais là, parce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce qu'ils sont un peu perdus, là, dans l'aventure, quand on voit que cette année, deux choses, moi, qui m'ont marqué, ben, grand invité vedette, Gwyneth Paltrow. Ben, oui, c'est une vedette d'Hollywood que tout le monde connaît, une actrice appréciée, qui a des gros titres à son palmarès. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de quelqu'un qui a un apport réel aux nouvelles tendances dans la commercialisation de la créativité? Bon, les organisateurs...
Elle a beaucoup d'idées en matière de médecine douce.
Ben, c'est ça.
C'est très, très, très créatif parfois.
Alors, Madame Pazur, une entreprise qui s'appelle Goop, là, mais bon, c'est qu'on peut se questionner après ça. Oui, c'est une entreprise qui fait de l'argent, qui vend des produits, mais est-ce qu'on est dans la créativité, tu sais, quand on vend des produits ésotériques ou quand on vend des produits, dans le fond, qui vendent à cause de leur appellation tellement vulgaire qu'on peut pas la répéter à la radio.
Mm-hmm.
C'est pas sûr. tu sais, dans le fond, c'est plus une personne qui joue sur son image publique, sur son physique même, on va le dire directement, pour vendre des trucs, tu sais, mais
c'est pas de l'innovation, là. C'est vieux comme le monde.
C'est vieux comme le monde,
jouer sur sa renommée pour vendre des trucs.
Sur son image corporelle.
Ben oui.
Bon, hein, t'as raison, c'est vieux comme le monde. On est loin de l'innovation. Et là, un autre gros nom cette année, Jane Fonda. Jane Fonda, de ce temps-ci, quand on la voit, c'est parce qu'elle a des tire-up après les pouces, tu sais. Elle est devenue un peu militante professionnelle. Encore là, elle a le droit d'avoir des implications sociales. Il n'y a pas de problème là.
Ben oui.
Est-ce qu'on est dans la commercialisation de la créativité puis de l'innovation? Je ne sais pas si Jane Fonda, c'est vraiment la toute dernière tendance si on veut parler de ces thèmes-là. Donc, il y a d'autres invités, Antoine, qui sont tout à fait corrects, là, qui sont beaucoup plus à propos, mais le problème, c'est que ces grandes vedettes-là, tu comprendras, ils viennent pas simplement parce qu'on leur demande gentiment. C'est des gens qui, évidemment, touchent des très, très gros cachets, et
c'est
ces cachets-là sont payés à partir des subventions. Et l'autre élément pour lequel on peut se questionner, c'est que je pense que si on a comme cœur, comme mission, comme raison d'être de faire converger ces gens-là vers Montréal, les influenceurs de ce secteur-là, ben de décider de faire une édition virtuelle, ben évidemment, ça perd une partie de sa raison d'être si c'est virtuel. Parce qu'évidemment, tout le côté où les gens convergent vers Montréal, visitent Montréal, remplissent les commerces de Montréal, rencontrent des gens de Montréal, ben c'est pas mal moins évident qu'à faire ça virtuellement. Et est-ce que c'est normal qu'avec des frais logistiques qui sont beaucoup plus bas, ben les gouvernements doivent quand même verser les mêmes subventions que si l'événement s'était tenu? Je vous rappelle qu'un OSBL, c'est pas supposé faire de profit. Peut-être qu'on va regarder ça. Mais moi, je peux vous dire que du côté du gouvernement, on a quand même un peu sourcillé et devant la formule et devant la programmation. Et je pense que si l'organisme ne fait pas attention, il pourrait peut-être avoir des mauvaises surprises pour les éditions futures.
Ben oui, parce que là, il y a le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui donne 500 000 $. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, 350 000. Puis la caisse de dépôt a allongé un petit 40 000.
Ben
c'est quand même des sous, là.
C'est quand même des sous. Puis là, on peut se demander, on vous reviendra bientôt avec les cachets précis que peuvent demander ces personnes-là. Mais je vous assure que c'est pour faire une petite conférence virtuelle, c'est beaucoup plus d'argent que ce que va gagner Québécois moyen en une année, voire deux, là.
Ah, c'est terrible, ça, quand même. Mais j'y pense. Toi, tu as déjà été chef de cabinet du ministre des Finances.
Oui.
Donc, tu as dû voir passer ça, des demandes de subventions de C2 Montréal?
Ah, tout à fait. Et à l'époque, ça débutait et on avait décidé de les soutenir. Mais ça faisait déjà discuter à l'époque. On se demandait déjà, dans le fond, justement, c'était tout ce débat-là entre l'accord que tout le monde avait sur le pôle de créativité, de commercialisation, de créativité à Montréal. Ça, je pense que c'est un concept que tout le monde adorait, mais ce qu'on aimait moins, c'était prendre l'argent des contribuables pour jouer dans un événement très glamour, où dans le fond, c'est l'opulence, c'est les vedettes, et ça, on aimait moins ça, et c'était pas tout le monde, je veux dire, au gouvernement, qui était à l'aise avec ça. On leur avait d'ailleurs signifié à l'époque que le robinet allait se refermer tranquillement et qu'au fil des années, l'activité devait viser à, dans le fond, sa propre rentabilité, à équilibrer ses revenus et ses dépenses sans nécessairement avoir autant de subventions publiques.
Et dis-moi, quand on met de l'argent public comme ça, on devrait vérifier si ça a un effet. Est-ce que ça a un effet, cette conférence-là? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites?
Ben, ils se sont véritablement fait poser la question, Antoine, parce que à force de se faire un petit peu mettre en cause, ils avaient payé PricewaterhouseCoopers pour faire une analyse d'impact, des retombées de leur événement. Et le document, bon, qui était quand même un peu controversé, là, en arrivait à la conclusion que chaque dollar investi dans ces deux Montréal rapportait 8,68 au gouvernement en retombées. Mais là, évidemment, quand on calcule les retombées, ben là, on calcule évidemment les retombées pour les restaurateurs auto, les retombées parce qu'il y a des gens qui payent de l'impôt dans, dans l'économie que fait rouler le gouvernement. Donc, dans l'événement...
Les chambres d'hôtel, surtout, les compagnies.
Dans les chambres, ben exactement. Bon, et là, dans un événement virtuel, le 8 et 68, d'après moi, il va être pas mal plus maigre que ça si jamais on fait un autre bilan. Et je pense que c'est là que le calcul arrivera plus, parce qu'on... Faut le mentionner, hein, quand les gens demandent des subventions au gouvernement, il y a toujours des grilles d'analyse, c'est toujours mentionné. Si le gouvernement met une pièce de votre argent dans une entreprise, dans un événement, c'est toujours mesuré comment on va ramasser en augmentation de l'activité économique, en nombre d'emplois, en retombées fiscales. Et si les ratios ne sont pas suffisamment élevés, ben normalement, la réponse est négative quand on est dans la sphère économique. Évidemment, dans la sphère sociale, on assure évidemment qu'il n'y a pas de calcul du même genre, mais dans la sphère économique, ben on s'arrange tout le temps pour être capable de démontrer que quand on dépasse un sou pour stimuler l'économie, ben que les contribuables sont gagnants en bout de piste. L'édition de cette année de C2 Montréal, je pense que le calcul va être un petit peu plus compliqué.
Oui, évidemment, quand c'est en ligne, il n'y a pas de retombée dans la réalité. Ben merci beaucoup, Jean-François Gibault.
Merci, Antoine.
Et on se reparle bientôt, parce que quand tu viens pas, là, les auditeurs me demandent, mais il est où le compteur?
Ah, ben il est là le compteur. On ne voudrait pas décevoir personne, donc on se reprend très bientôt.
Salut. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Au bout du fil, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
D'abord, un mot sur ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Là, cette professeure qui a été suspendue pour avoir prononcé un mot qui est devenu interdit. Je sais que vous n'êtes pas responsable de l'enseignement supérieur, mais j'aurais aimé savoir ce que vous pensez de cette controverse.
Je pense que Mme Lieutenant Duval a droit à tous les égards qu'on réserve aux professeurs d'université. Puis je pense que les étudiants vont gagner à ce qu'on mène tous ensemble la lutte pour une vraie liberté d'expression sur les campus. D'avoir des mots tabous qu'on ne peut même pas utiliser en classe alors qu'on débat, alors que justement, on fait s'élever les esprits. C'est certainement pas une façon d'enseigner. On veut que nos universités, on veut que nos écoles, nos collèges soient des endroits où on peut débattre. C'est pas des lieux de censure, c'est des lieux d'enseignement.
Est-ce que la direction de l'université aurait dû appuyer davantage la professeure? Là, on sent qu'ils l'ont un peu laissé seule là-dedans et ne l'ont pas défendue.
Je pense qu'il y a eu un amalgame, là, comme si on ne pouvait pas défendre la prof parce qu'on ne voulait pas prononcer le fameux mot. Je pense que ça a été une erreur malheureuse là, de l'université, malheureusement. Je pense qu'il appartient à tout le monde dans la société, mais encore plus aux acteurs des universités, puis encore davantage aux recteurs, de se porter à la défense de la liberté d'expression et, dans ce cas-ci, à la défense de l'utilisation qu'a fait du fameux mot de la professeure d'université.
Donc, dans son contexte, elle avait le droit d'utiliser ce mot-là, selon vous?
Tout est affaire de contexte. Et oui, je pense qu'en salle de classe, il faut être capable de nommer les choses, mais aussi d'utiliser les mots, ne serait-ce que pour les condamner ensuite.
Maintenant, parlons de changement à la tête du ministère. Vous avez un nouveau sous-ministre. Monsieur Éric Blackburn là, est parti. Vous avez maintenant Monsieur Sancartier qui est arrivé. Pourquoi un nouveau sous-ministre? Qu'est-ce qui a conduit à ce changement de garde? C'est toujours important dans un ministère, surtout un énorme ministère comme le ministère de l'Éducation.
Monsieur Sancartier arrive comme du sang neuf. Il arrive en renfort, parce que vous savez qu'on doit livrer beaucoup de chantiers en ce moment. Dans la dernière année, on a fait pas mal de choses. Hein. On est en train d'activer en ce moment nos conseils d'administration de nos centres de services. On a modernisé la gouvernance scolaire, adapté la loi sur la maternelle 4 ans. Mais quand on regarde devant, on a beaucoup de choses à livrer encore, notamment les chantiers des belles écoles. On a besoin, là, je dirais, d'une grande rigueur bureaucratique là pour serrer les boulons au ministère et arriver avec davantage d'efficience.
Parce qu'il y avait des boulons qui étaient desserrés, pour reprendre votre formule. J'imagine que c'est la liste des écoles contaminées. Il y avait quoi aussi? Le vol de données de professeurs ou d'enseignants. Il y a eu quelques couacs à la direction du ministère.
Ben, vous savez, le ministère de l'Éducation, c'est un des plus gros au Québec, un des plus beaux aussi, mais il y a énormément de personnes qui travaillent dans le ministère, des personnes de grandes compétences, mais je pense qu'on a besoin de revoir nos façons de faire pour être encore plus efficaces, tout simplement. Nous autres, on regarde en avant. D'ici 2022, là, on a encore plusieurs changements à apporter dans le réseau scolaire. Vous savez que l'éducation, c'est une priorité pour le gouvernement depuis le début. Mm-hmm. Donc, comme je vous le dis, encore ouvrir davantage de classes de maternelle 4 ans pour faire la simulation précoce, ouais. Inaugurer des belles écoles et tant d'autres chantiers. Donc, on a le regard porté vers l'avant.
Revoir les façons de faire, j'imagine aussi que ça implique avoir plus de données. On dit qu'au ministère de l'Éducation, c'est toujours difficile d'avoir des données. Est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là à corriger?
Mais je pense qu'on a fait un très bon travail, je vous dirais. Il y a eu, comme vous avez dit, peut-être un couac en début d'année scolaire là pour quelques jours ou une semaine ou deux. Mais depuis maintenant plus d'un mois, on diffuse tous les jours autour de 13 heures des informations très claires, détaillées sur la pandémie avec des comparables. Donc, on sait toujours combien de personnes sont diagnostiquées, combien de classes sont fermées, combien de classes réouvrent à chaque jour aussi. C'est important de le mentionner. Même chose pour des écoles. Il y a toujours des écoles qui, malheureusement, sont fermées temporairement, mais des écoles qui réouvrent. Je pense qu'on a bien livré côté transparence et côté données sur les informations de la COVID après un petit moment, une petite belle félicitation de quelques jours. Je pense que les données sont fiables. Tout le monde est apprécié en ce moment.
Qu'est-ce que vous pensez de votre vis-à-vis Marois Risky qui est allé faire de la suppléance et qui fera de la suppléance désormais les lundis en avant-midi?
Ben, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que d'une certaine façon, elle donne l'exemple. On dit qu'on a besoin de renforts, de gens. Évidemment, on veut d'abord des gens qui sont diplômés en sciences de l'éducation ou qui sont étudiants, donc faculté de sciences d'éducation, ce sont les choix numéro un. Mais on ouvre la porte aussi à des gens qui ont ce qu'on appelle un baccalauréat disciplinaire en histoire, en français, en littérature, en mathématiques, pour faire de la suppléance. Puis ensuite, bien sûr, on souhaite qu'ils poursuivent pour devenir des enseignants en s'inscrivant pour la maîtrise qualifiante. Mais je pense que ce que Mme Risky fait, c'est tout à fait noble et je pense que ça envoie un beau signal.
Est-ce qu'il y a d'autres parlementaires qui devraient le faire?
Il n'appartient pas au ministre de l'Éducation de dire quoi faire aux parlementaires. Être député, c'est un travail à temps plein et plus que plein. Mm-hmm. Je pense que dans le cadre de son travail là, de critique en matière d'éducation, elle a voulu envoyer un message puis peut-être aussi aller prendre la température de l'eau parce que bon, c'est quand même nouveau pour elle, le monde de l'enseignement. Là. C'est pas là-dedans qu'elle avait étudié, qu'elle avait travaillé initialement. Donc moi, je doute pas là que de côtoyer des enseignants sur mm-hmm. le terrain, ça va être aidant dans son travail. Puis on pourra collaborer encore mieux.
Vous, dont c'était le travail et le métier, ça doit vous donner le goût quand même. Quelques heures, aller justement prendre la température de l'eau, retourner sur le terrain.
Il y a toujours des moments clés, que j'enseigne pas, là, quelque part en avril 2014, où je m'ennuie quand même du contact avec les élèves, du contact avec les enseignants, les professionnels qui nous entourent. La rentrée, c'est sûr, la rentrée scolaire, c'est un moment fébrile. Je vous dirais aussi le retour en janvier, où on retrouve nos élèves, on fait un bilan, on essaie de rattraper le temps perdu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis qui enseignent encore ou qui sont devenus direction d'école avec qui je parle. Puis c'est sûr que c'est mes premières amours, l'enseignement. Puis le contact avec les élèves, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Ah, c'est vraiment le contact avec les élèves. J'ai parlé, bien sûr, des échanges avec les autres enseignants où on partage nos bons coups ou aussi, des fois, on partage nos bévues. Mais non, c'est vraiment de s'installer puis de se mettre en danger un peu devant 25, 26 élèves, d'échanger avec eux, de tisser des liens forts, très, très forts. C'est sûr que c'est le contact humain. La première des choses, c'est le contact humain qui me manque, je dirais, dans l'enseignement. On le retrouve, bien sûr, en politique, mais il y a quand même une candeur puis une pureté dans les contacts humains entre un enseignant et ses élèves.
Ça marche bien, votre projet Répondez présent, d'après ce que j'ai compris? C'est-à-dire, justement, d'attirer des gens, je pense, des jeunes retraités qui viennent faire de la suppléance?
Je vous dirais qu'on couvre très, très large. D'abord, on avait créé devenirenseignant.com où on avait vraiment une plateforme pour des gens qui veulent devenir enseignants, là, qui veulent se réorienter, soit des gens qui ont déjà enseigné, des gens qui ont un baccalauréat disciplinaire, des gens qui arrivent de partout à travers le Canada, de d'autres provinces, même de l'international. C'est très, très intuitif, c'est très bien fait. On peut postuler, savoir ce qui nous manque, quelle serait la durée de la formation. Ça, c'est une chose. Là, on a fait Répondez présent, qui est lié, mais qui vise davantage là, à répondre de manière urgente à une pénurie de personnel pour des surveillants d'élèves, pour des concierges et pour des éducateurs et éducatrices en service de garde. Et ça fonctionne là pour recruter environ 2000 personnes. Je voudrais que pour l'instant, on a plus de 20 000 candidatures. Et là, le processus d'embauche,
20 000.
Ça fonctionne très bien.
C'est
oui,
énorme.
20 000 personnes qui sont allées sur le site, qui ont lu l'information et qui ont rempli le formulaire au complet. Et donc, on est en train de faire le processus d'embauche, incluant évidemment la vérification des antécédents judiciaires.
Dites-moi, en zone rouge, là, vous, qu'est-ce que vous voudriez voir redémarrer le plus vite possible dans nos écoles?
Écoutez, moi, je déteste toute contrainte à la vie scolaire normale. Hein? Je peux vous dire, là, on le fait parce qu'on est en pandémie et qu'on veut protéger la santé des élèves et du personnel. Ben, écoutez, chaque chose qui limite la libre circulation dans les écoles, moi, c'est quelque chose qui me fait mal.
Mm-hmm.
Le port du masque, on le fait, on doit le faire, c'est correct, comme les autres citoyens le feront, mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, parce qu'enseigner, c'est communiquer. Les élèves aussi s'expriment par le non-verbal.
Ouais.
Puis évidemment, les activités parascolaires, le sport-études, hors-études, c'est beaucoup compliqué par les contraintes avec lesquelles on vit. Mais c'est nécessaire, bon, pour éviter la propagation, pour garder nos écoles ouvertes. Je dirais que pour garder nos écoles ouvertes, on est prêt à faire beaucoup de compromis. Ça veut pas dire qu'on les aime.
Ouais. Mais le premier ministre, l'autre fois, a dit que lui, il aimerait vraiment revoir des entraînements pour les jeunes, notamment au primaire et au secondaire. Est-ce que c'est votre cas? Ce serait sa priorité à lui.
Les cours d'éducation physique, vous savez, qui sont préservés, là. Tout comme les cours de musique, les cours de danse, ces choses-là sont là. C'est le parascolaire, c'est des choses qui, des fois, gardent les jeunes très, très motivés. Là, moi, j'ai fait de l'impro, j'étais dans un troupe de théâtre, j'ai joué au hockey énormément, donc je sais à quel point c'est important pour les jeunes. Écoutez, si la santé publique nous permet de le réouvrir, on va le faire. Et on est en plein dans la deuxième vague en ce moment. Il y a des zones rouges qui s'additionnent. Il faut quand même être réaliste, là.
Ça regarde mal, hein?
Faire passer quand même la santé avant tout.
Ça regarde mal pour plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Merci beaucoup, Jean-François Roberge.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au plaisir. Jean-François Roberge est ministre de l'Éducation. C'est tout pour nous à La Haut sur la Colline pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et surtout, revenez-nous demain.
Cube Radio.